Vous êtes 23 filles ensemble pendant un mois. Tu vas forcément avoir tes règles à un moment donné. C'est un truc dont vous parlez entre vous ou c'est plutôt tabou? Salut, c'est Cléo et bienvenue dans Championne du Monde, le podcast de toutes les femmes qui vivent le sport aujourd'hui. Pongistes professionnelles, aficionados du Stade Vélodrome, médecins du sport ou encore vos mères fans de Kevin Mayer, dans chaque épisode, partez à la rencontre de ces femmes passionnantes qui sont plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Pour ce deuxième épisode spécial Coupe du Monde féminine de football, nous accueillons, ou plutôt nous avons été accueillis, chez Jessica Ouara Domo, jeune retraitée du football international et aujourd'hui consultante pour Canal+. Le football, Jessica l'a quasiment pratiqué avant de savoir marcher, mais sa carrière n'a pas toujours été des plus simples. Devenue professionnelle à l'âge de 25 ans alors qu'elle évolue au PSG, et oui, 25 ans c'est âgé dans le sport, elle a dû avant ça concilier pendant des années son travail et la pratique du football pour gagner sa vie convenablement. Plus récemment, et suite à plusieurs blessures, elle a été recrutée par Canal+, en tant que consultante et même commentatrice pour la L1 masculine. Et oui, les femmes aussi commentent les hommes. Dans cet épisode, Jessica nous emmène dans les coulisses d'une Coupe du Monde, elle qui l'a vécue en tant que joueuse en 2015, et nous explique ce qui a évolué en 4 ans, entre médiatisation et professionnalisation massive du football féminin. Un parcours authentique où, encore une fois, la vie de femme est souvent vécue après la vie de sportive. Salut Jessica !
Salut !
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette trilogie spéciale Coupe du Monde.
De rien, avec plaisir.
Alors Jessica, tu aimes le bilon ?
Oh, il y a des dossiers qui sortent déjà !
C'est un peu abrupt comme début.
Les dossiers, bah c'est les bases, les dossiers sont sortis au moins, je sais dans quoi je m'embarque. Oui, j'aime le bilon, ouais, j'adore le ballon, le ballon de foot. Mais c'est comme ça que j'appelais un ballon de foot quand j'étais jeune, je disais un bilon. Je demandais à ma mère, est-ce que je peux avoir un bilon maman ? Donc voilà, les dossiers sont sortis, ça y est.
Tu faisais un mix entre ballon et million peut-être, il y avait un...
Ouais, je sais pas si à cet âge-là j'avais encore ça en tête, mais... Je sais pas.
En gros, ouais, pour expliquer, c'est vrai que sur plusieurs interviews, t'expliquais que dès toute petite, dès t'es un an, deux ans, tu demandais déjà à tes parents d'avoir un ballon, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ce qui est trop mignon, d'où le bilon, qui est c'est adorable.
Totalement.
C'est vraiment trop chou. Donc, dès le début, t'as eu le ballon pour toi, c'était inné, quoi.
Ouais, c'était inné. Après, je suis née dans une famille où le sport déjà était très important. Mon père jouait au foot, entraînait. Mon grand frère jouait au foot. Ma mère était sportive, faisait de l'athlétisme et du hand. Donc, du coup, j'étais dans une famille de sportifs avec des ballons.
Ouais.
Et voir son grand frère, son père, tous les week-ends sur un terrain de foot, bah forcément, ça crée de l'envie et ça crée des vocations.
Et du coup, le foot, parce que tu disais ta mère, c'était athlétisme.
Athlétisme et hand, ouais.
Et t'as un frère ?
Juste un grand frère, ouais. Après, j'ai commencé par la gym.
Ok.
Très tôt, après, j'ai fait du hand. Mais les mercredis, quand ma mère travaillait, j'allais avec mon père au foot. Tous les week-ends, on allait voir mon frère jouer, mon père jouer. Donc, j'étais quand même baignée dans le foot, même si je faisais autre chose. J'adorais faire de la gym, j'adorais faire du hand. Mais au final, je suis revenue naturellement au foot parce que c'était vraiment ça qui me plaisait par-dessus tout, quoi.
À quel âge, du coup, tu as commencé à vraiment faire du foot ?
À 10 ans, l'année de la Coupe du Monde, en fait, 97-98.
Okay.
Cette année-là, en fait, j'ai commencé vraiment à jouer au foot. J'ai fait ma première licence. J'ai eu la chance de faire un match de levée de rideau de cette Coupe du Monde à Nantes, à la Beaujoire.
Trop bien.
Un Chili-Cameroun, c'était extraordinaire, exceptionnel. L'ambiance dans les tribunes et après avoir vu le match, c'était magique. À 10 ans, quand on assiste à un match de Coupe du Monde, c'est dingue.
Et du coup, ça t'a donné encore plus envie de
faire
du foot.
En plus, ils sont champions du monde cette année-là. Encore les souvenirs, aller dans les rues avec toute la famille et tout. Donc, forcément, ça a lancé encore plus la chose.
Ça s'est passé comment, du coup? Tu t'es inscrit dans un club
Ouais, en fait, j'avais la chance, c'est que le club où mon père jouait et où mon frère jouait aussi, c'était un club qui était et qui avait déjà des équipes féminines, en fait, qui c'était le plus gros club, entre guillemets, de la région féminin. Okay. Donc, ça a facilité aussi la chose parce que j'avais...
C'était sur Angers, hein, c'est ça?
Ouais, sur Angers, à la Croix-Blanche, exactement, Angers. Donc, c'était le club à côté de chez moi, il était déjà... beaucoup féminin, beaucoup de foot féminin dedans, donc ça a permis aussi que je joue tout de suite avec les filles, même si de temps en temps j'allais jouer avec les garçons. Quand je jouais pas le week-end avec les filles en jeune, j'allais avec les garçons, mais j'ai tout de suite joué dans une équipe de filles. Le foot féminin, je connaissais déjà parce que j'en voyais le week-end, donc j'ai pas été à l'abordage. Ouais,
ça t'a semblé possible, en fait, quand...
Ouais, possible et naturel, en fait. Pour moi, c'était normal que des filles, beaucoup de filles jouent au foot parce que dans mon quotidien, j'en voyais, en fait, tous les week-ends, quoi.
Et tes parents, du coup, j'imagine, en plus, ils ont dû complètement t'accompagner et te...
Oui.
Là-dedans, parce que j'imagine, tu vois, souvent, c'est vrai qu'on a le cas, quand les familles ont pas été éduquées dans le sport, ou moins, et encore moins dans les sports dits masculins, ouais. Et que bah, ça peut créer aussi des freins au niveau de la famille. Toi, du coup, ça n'a pas du tout été le cas.
Non, pour le coup, j'ai eu vraiment cette chance-là, c'est que ma mère, même si elle n'a pas joué, elle adore le foot. Elle regarde les matchs de foot, même toute seule à la maison, à la télé. Donc, pour le coup, j'ai vraiment été bercée là-dedans. Donc, j'ai eu cette chance-là, c'est que voilà, pas de frein, aucun frein. Au contraire, peu importe le sport, ils m'ont poussée dedans. Donc, pour ça, c'est vraiment top.
Tu étais au club d'Angers.
Ouais.
Il y a un accompagnement. Enfin, ça se passe comment, du coup, quand tu progresses, qu'au bout d'un moment tu grandis. J'imagine que tu prends en niveau aussi, forcément.
Oui, oui.
Comment le club d'Angers il t'accompagne, en fait, en tant que footballeuse?
Mais en fait, quand on est jeune comme ça, il y a les sélections départementales, les sélections régionales. Donc, c'est comme ça un peu qu'on monte de niveau. Moi, c'était de toute façon le club le plus haut de ma région. Il jouait en D2 féminin, donc le deuxième niveau. Ouais. Donc, c'était quand même un bon niveau. Du coup, j'ai commencé à 14 ans à jouer en D2 féminin avec l'équipe première. Au début, j'avais pas trop envie. Je voulais être avec mes copines encore et tout. Donc, la première fois que j'ai vu la convocation où je devais aller avec les grandes, entre guillemets, j'avais pas du tout envie.
J'ai dit, mais maman, t'avais un meilleur niveau que peut-être tes copines.
Oui, peut-être un petit peu, ou parce qu'il y avait besoin à ce moment-là, ouais. Etc. Et donc, du coup, on m'a fait monter plus haut, mais j'avais pas envie, quoi. Je voulais être avec mes copines, je m'amusais avec mes copines, ça me suffisait. Puis après, il y a eu les équipes départementales, régionales. Et quand on est jeune comme ça, vers 14-15 ans, il y a les championnats des régions, entre guillemets, ouais. Pendant les vacances scolaires. Ça s'appelle les coupes nationales. Et ça se passe à Clairefontaine. Et donc, c'est là où on commence à se faire recruter pour... à l'époque, maintenant, c'est l'INSEP pour les filles. Mais c'était Clairefontaine pour les filles à mon époque. Elles étaient à Clairefontaine. Et il n'y avait pas autant de pôles régionales. Maintenant, il y en a à Rennes, il y en a dans l'Est, dans le Sud, etc. Nous, il n'y avait que Clairefontaine. Donc, on était 20, entre 20 et 40 élus, entre guillemets,
okay.
Pour aller et pour avoir une formation un peu plus de haut niveau. Donc, j'ai été prise, suite à cette Coupe nationale, j'ai été prise à Clairefontaine.
Okay.
Et c'est là où j'ai commencé vraiment ma progression encore plus, où je suis partie à 14 ans de chez moi et pendant 4 ans, je suis allée à Clairefontaine. J'ai fait mes études et en même temps, j'avais entraînement tous les jours.
C'était du sport-études, en fait.
Ouais, complètement un gros sport-études, quoi. Donc, c'est là où vraiment tout a vraiment basculé. En fait.
Mais du coup, tu jouais toujours à Angers?
La première année, je jouais toujours à Angers, donc je faisais les allers-retours les week-ends, les vacances scolaires. Et après, en fait, il y avait une équipe du centre et on jouait en D1 féminine, en fait.
Okay.
On était intégrés dans le championnat de D1 féminine, le plus haut niveau. C'était bien parce que, du coup, comme les trois quarts des filles étaient en équipe de France 19, U17, U19, ouais. On avait l'habitude de jouer déjà tous les week-ends ensemble. Donc, les automatismes étaient beaucoup plus agréables après. Et donc, on les avait quand on allait avec la sélection de l'équipe de France.
Et du coup, après, tu as joué un an à Angers et il y a un autre club qui est venu te chercher.
J'ai joué après trois ans en équipe du centre. Donc, à Clairefontaine, okay. Avec l'équipe du centre. Et après, pour mes études, je suis partie à Marseille. Donc je suis partie à Marseille et j'ai fait le choix d'aller en D2, donc un niveau en dessous, ouais. Mais pour mes études il y a eu un souci et le club a été rétrogradé après un plus bas niveau, donc là je pouvais plus jouer au plus bas niveau, donc je continuais mes études à Marseille et j'allais le week-end à Saint-Etienne, en fait, en D1.
D'accord.
Donc je faisais mes études à Marseille, je m'entraînais, alors j'ai eu cette chance là aussi, c'est que je me suis entraînée avec les garçons de l'Olympique de Marseille, les 16 ans nationaux, à la Commanderie. Donc, je vous explique pas, une fille débarque à la Commanderie avec son sac de foot au début. On m'a recalé, en fait.
Ah ouais?
La première fois que je suis arrivée en voiture, donc je suis arrivée avec ma voiture à la Commanderie, mon sac de foot, et le vigile, il me dit oui. Je dis, je viens m'entraîner. Il me dit, comment ça? Je dis, oui, je viens m'entraîner avec les garçons. Mais non, c'est pas possible. Il a dû appeler le responsable, mais qui lui a dit, oui, oui, faites l'entrée. Bon, après, c'était normal, tous les jours, j'y allais, donc c'était normal. Mais la première fois, ouais, on m'a recalé, on m'a dit, mais non. Et attendez, je vais appeler. Donc, ouais, c'était une fille, elle est à la commanderie. Maintenant, il y a une équipe féminine à l'OM, mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc, j'étais un peu un extraterrestre.
Et les garçons, ils t'ont inclus assez rapidement ou ça a été aussi un peu compliqué?
Non, franchement, ça va. Pour le coup, ils ont été super gentils. Après, ils étaient un peu plus jeunes que moi. Moi, j'avais 18 ans à cette époque-là. Eux, c'était des U16, donc 15-16 ans. Mais franchement, c'était super intéressant. Ils étaient adorables, les coachs adorables. Et ça m'a permis en plus, moi aussi, de progresser parce que mine de rien... c'était le très haut niveau, c'est la génération qui a été deux fois championne de France, donc c'était un très très haut niveau.
Parce que les années d'avant, en plus, tu avais fait le choix de jouer à un moins bon niveau que le tien pour privilégier tes études. Donc,
c'est ça.
C'était un peu un sacrifice que tu avais fait quand même.
Ouais, mais en même temps, nous, le foot professionnel, ça n'existait pas encore vraiment à mon époque. Et pour moi, le plus important, ça restait mes études et mon avenir professionnel après, donc... Du coup, c'était logique pour moi de devoir baisser niveau si je voulais faire les études que j'avais envie de faire. Quoi.
Parce qu'à ce moment-là, tu t'étais jamais imaginé que tu pourrais en faire ton métier?
Non, pas du tout. Pas du tout, ça arrivait tard. Hein. C'est que mes 5 dernières saisons où j'ai été professionnelle, avant je ne l'étais pas du tout. Donc je ne me l'imaginais pas en fait pour moi. Et puis même si j'ai été 5 années professionnelle, on ne peut pas se permettre de faire que ça, de rien avoir dans les mains après. Faut être honnête, les salaires c'est pas du tout la même chose que les garçons, même si pendant notre carrière quand on est professionnel on gagne plutôt bien notre vie, mais il faut assurer ses arrières après et on sait qu'on va devoir travailler, donc il faut quoi qu'il arrive mes études passer avant tout.
Parce que du coup quand t'avais 18 ans t'avais déjà une équipe quand même de France de féminine,
ouais.
Et les filles qui jouaient dans cette équipe là elles faisaient aussi des métiers à côté.
Ouais. C'est notre génération, ma génération qui a commencé à vraiment connaître le foot professionnel qui a fait cette transition-là. Maintenant, les plus jeunes vont connaître un peu plus. Mais nous, notre génération, on a vraiment connu le changement, en fait, la transition entre les deux. Mais les générations d'avant, non, elles n'étaient pas professionnelles, elles travaillaient tout à côté. Ouais.
Tu faisais quoi comme études, du coup?
J'ai fait une licence prépa physique entraînement sportif. Okay. J'ai un BPJAPT, j'ai un diplôme de secrétaire médical, c'est assez éclectique, mais ça m'a permis de travailler, parce qu'on a quand même des horaires, faut avoir des horaires quand même très précis pour pouvoir s'entraîner quand même et continuer à jouer au foot, donc... Être dans l'entraînement sportif, c'est plus le midi, le soir, donc je ne pouvais pas faire ça. Donc du coup, à la maison, j'ai fait un diplôme de secrétaire médical, j'ai cherché quelque chose qui pouvait à peu près me plaire et avoir des horaires de bureau.
Parce qu'en fait, ta formation initiale
ne
te permettait pas de combiner...
Non, c'était compliqué. Au tout début, j'étais éducatrice sportive à la Fondation PSG, quand je jouais au PSG. Donc voilà, mais... ça restait quand même assez compliqué, les horaires, etc. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un travail où j'ai des horaires un peu de bureau. Donc, j'ai cherché un peu un diplôme que je peux faire à la maison, en plus du foot, pour pouvoir avoir le diplôme et après pouvoir travailler. Donc, j'ai eu ce diplôme de secrétaire médical en travaillant à la maison, en ayant ce diplôme après ma licence. Donc, on rétrograde de niveau de diplôme. Mais bon, il fallait que je trouve quelque chose.
Tu n'avais pas le choix si tu voulais continuer à faire du foot,
c'est
en fait.
Bah oui, parce qu'il fallait que je puisse vivre. Donc, il fallait que je travaille à côté. Parce que je en étant entre guillemets joueuse de foot au PSG me permettait pas de vivre, donc il fallait que je puisse travailler à côté. Donc du coup j'ai trouvé ça quelque chose qui m'intéressait, donc j'étais à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, l'hôpital psychiatrique, c'était super intéressant. Et donc je faisais ça et en même temps j'allais m'entraîner le soir.
Ouais, parce que du coup on a sauté une étape, mais tu t'es entraînée avec les mecs à Marseille et après t'es partie
au PSG.
Au PSG.
Ouais, en fait, quand je m'entraînais avec les mecs, je jouais à Saint-Etienne, 2 ans. Et après, parce que c'était le club qui acceptait que la semaine, je ne sois pas là. Donc, c'était aussi compliqué de trouver un club qui accepte que la semaine, on ne s'entraîne pas avec. Surtout au plus haut niveau. Et après, j'ai eu cette opportunité-là de retourner sur Paris, aller au PSG. C'était le club que je supporte depuis que je suis petite. Donc, du coup, c'était top. Puis, je retrouvais des copines avec qui j'étais en formation, en sélection de jeunes. Et le projet était super intéressant. Donc, je suis retournée sur Paris.
C'est eux qui sont venus te chercher ?
Ouais. Mais du coup, c'était top. Cette année, magnifique.
Ouais, du coup, t'es restée là-bas pendant 7 ans.
Ouais.
C'est PSG, PSG dans le cœur.
C'est ça, ouais. Même en ayant fini à Lyon, le PSG, ça restera toujours. J'ai encore des photos petites avec le maillot du PSG, là, ouais. Donc, forcément.
Et t'es restée donc 7 ans au PSG. Pendant tout ce temps-là, tu bossais à côté ?
Non. C'est là où j'ai connu ma transition à devenir vraiment footballeuse professionnelle. Les Qataris sont arrivés et ça a été bénéfique pour les garçons, mais c'était aussi très bénéfique pour nous parce que la section féminine est devenue complètement professionnelle, puis personne ne travaillait à côté.
Okay.
Ils ont mis en place ça.
Au début,
c'était
2011, je crois. Okay. 2011-2012, si je ne me trompe pas. Au début, j'ai hésité à signer mon contrat pro.
Pourquoi ?
Bah, parce que j'avais un bon travail dans les mains.
Qui te plaisait ?
Ouais, qui me plaisait. Une sécurité d'emploi, etc. Que le premier contrat, forcément, qu'on a, ce n'est pas des sommes mirobolantes. Mmh. Donc, c'était à peu près égal à ce que je gagnais en étant secrétaire médicale, plus ce que je gagnais en plus un peu en étant footballeuse. Et donc, du coup, on hésite parce qu'on perd un emploi où on est dans la sécurité de l'emploi. Et donc, du coup, j'ai hésité longtemps et c'est ma mère qui m'a dit « Mais ma fille, mais fais-le, quoi, vas-y, fonce !» T'es parti à 14 ans de la maison, t'as des études dans les mains, t'as travaillé à côté, tu retravailleras après, je m'inquiète pas, tu retrouveras du travail. Mais fonce quoi, fais ce que t'as envie, fais ta passion, n'hésite pas une seule seconde.
C'est marrant que t'aies hésité,
ouais.
Parce que c'était ta passion depuis toujours le foot, donc
ouais.
tu peux te dire... C'est une opportunité en or, je la saisis direct. Non, toi, ça n'a pas été ça.
Non,
pas été
non, parce que forcément, on pense à l'après, et on sait que voilà, j'ai été professionnelle à 25 ans, quoi.
Ouais.
Donc, on sait que la carrière n'est pas non plus énormément longue quand on a envie d'avoir une vie de famille, etc. Et qu'on se dit, on n'est pas professionnel à 19 ans comme c'est à 25 ans. Donc, on se pose un peu plus de questions à cet âge-là et on se dit, est-ce que je vais retrouver un bon travail après, quoi.
Et au final, tu as fait cette année au PSG, ça s'est bien passé, c'est des super souvenirs.
Ouais, magnifique, magnifique.
Et tu as eu l'opportunité, malheureusement, si je puis dire, l'opportunité à cause d'une blessure.
Ouais.
De changer de voie. Là, on t'est passé encore dans un autre univers qui est l'univers de la télévision.
Ouais. Ouais, après, c'est quelque chose. Déjà, quand je joue au PSG mes dernières années, je travaillais à la radio, à France Bleu, pour Team 100% Ducrot. On parlait du PSG tous les mardis soirs.
C'est eux qui t'avaient proposé de
venir.
Ouais,
en fait, je connaissais Pierre Ducrot, qui était après mon agent sportif. Donc, c'était un ami, un agent sportif, qui m'a proposé ça parce que c'est quelque chose que j'aimais. J'avais fait quelques piges à BFM TV après les matchs de l'équipe de France Garçon. Après, c'était compliqué que je puisse continuer à faire ça. BFM voulait m'embaucher, mais toujours le problème des sponsors. PSG étant Bein Sport, etc. Donc, ça n'a pas pu être possible. Donc, c'était quelque chose que j'aimais, en fait, que j'ai découvert sur le tard. Parce qu'au début, je me cachais, quand le PSG TV nous suivait, je me cachais, quoi. J'étais derrière la caméra tout le temps.
Pour
pas qu'on filme spécialement, j'arrivais tout le temps à me retrouver derrière, en fait. Pas que je sois dans le champ. Donc, et j'étais très timide à l'époque. Et en fait, au final, à force de faire des interviews, et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais ça, que j'étais à l'aise dans les interviews. Et c'est comme ça que c'est venu, en fait.
Et ils t'ont proposé, donc t'as commencé à la radio,
ouais.
Et après t'es passé à la télé, t'as bossé avec Pierre Ménès, je crois.
Ouais, en fait, quand je suis partie à Lyon, et la dernière saison, donc la saison dernière, je me suis fait un premier croisé, le premier match amical de la saison, donc au mois d'août. Pierre Ménès lançait son émission où il est entouré que de femmes pour parler de foot.
Okay.
Il voulait des consultantes, donc il est entouré de chroniqueuses, plus une consultante qui tournait en fait. C'était plusieurs joueuses, il voulait plusieurs joueuses.
Okay.
Et moi, m'étant blessée, n'étant pas sur Paris, mais m'étant blessée, il s'est dit que j'allais avoir du temps. Donc il m'a appelé, il m'a proposé la chose en me disant tu tourneras avec d'autres filles, etc. Donc ce serait pas tous les vendredis. Il m'a dit tu te fais opérer et tu me dis. Donc je dis oui, c'était le vendredi soir, ça empiétait pas sur ma rééducation, donc pourquoi pas. C'est toujours une bonne expérience à prendre, c'est en direct, etc. Voilà quoi. Et en fait, au final, je me suis retrouvée à être la seule consultante et à faire toutes les émissions.
Okay.
Donc voilà, c'est que ça s'était bien passé. Donc du coup, j'ai fait toutes les émissions, ça s'est très bien passé. Et l'émission s'est arrêtée parce qu'elle ne marchait pas, hélas.
Ouais.
Mais on a délocalisé en fait l'émission et c'est devenu un avant-match du vendredi soir.
Okay.
Et en fait, au final, ils m'ont demandé si je pouvais, moi, continuer à faire ça. Donc j'avais accepté jusqu'à ce que je reprenne vraiment intensément les entraînements. Donc j'ai fait de janvier, tout le mois de janvier, tout le mois de février, tous les vendredis soirs en avant-match, la présentation de l'avant-match, etc. Et puis ça s'est bien passé, mais je voulais reprendre ma carrière, donc j'ai arrêté. Et malheureusement, donc Canal voulait me faire signer un contrat parce qu'ils avaient là des droits de la D1 féminine, etc. Donc me faire signer un contrat, et moi je leur ai dit non,
j'ai
encore
envie
de jouer encore un an, il y a la Coupe du Monde qui arrive et on en reparle après. Et je me suis fait encore à nouveau un croisé la dernière match de la saison sur le même genou. Et là, bah, du coup, j'ai accepté leur proposition et c'est comme ça que c'est vraiment encore plus parti, quoi.
Le destin, finalement.
C'est ça.
T'as dit, bah non, finalement, tu vas être à la télé.
C'est ça.
Parce que finalement, c'est vrai qu'il y avait des articles qui sont sortis quand tu t'es fait tes deuxièmes croisées, où toi, tu voulais revenir là, sur ce début d'année.
Ouais.
Du coup, ça n'a pas été possible sur ta préparation
Non, c'est vraiment un choix personnel. Mon genou allait très bien. Tout s'était bien passé comme la première fois. Mais maintenant, après, on se pose les bonnes questions. On se dit que là, on a chopé un wagon. Mmh. Et on dit que si on arrête ce wagon-là, est-ce que après, je vais pouvoir rattraper le train, quoi. Et j'aime ma vie à l'heure actuelle. Forcément, pendant 15 ans, j'ai été privée de tous les moments un peu familiaux, du quotidien, les anniversaires, etc. Et quand on regoute à ça, c'est compliqué de repartir à nouveau dans le haut niveau, dans le très haut niveau, surtout que c'est le très haut niveau et loin de tout le monde. Parce que je serais partie encore loin de mon mari aussi, parce qu'on a acheté une maison en région parisienne, il a retrouvé à nouveau du travail, je le voyais pas pour 6 mois, parce que ça aurait été pour maximum 6 mois. Quoi qu'il arrive, je compte arrêter après la Coupe du Monde. Donc, repartir pour 6 mois, lui, il serait pas parti avec moi. Et puis, j'aime ce que je fais à l'heure actuelle à Canal+. Je pense qu'il est temps aussi de laisser la place aux jeunes en équipe de France. Parce que, très clairement, si je reprenais, c'était
hyper
pour...
jeune quand même. Pas déconner.
Oui, mais mine de rien, dans le monde du sport, 31 ans, ça commence à être un peu âgé. Et puis, laisser la place aux jeunes, j'avais pas non plus... J'étais pas assurée de choper la liste des 23 non plus, d'être à nouveau sélectionnée. Et je me disais qu'en fait, j'aime ma vie maintenant et que je me voyais pas reprendre le quotidien d'une sportive de haut niveau, en fait.
T'es priorisée, elles avaient un peu changé, en fait.
Oui, l'envie de fonder une famille aussi, forcément. Je suis mariée. La suite logique, c'est d'avoir des enfants. En carrière, c'est compliqué, surtout quand on veut faire toutes les grosses compétitions l'été, quand on est en équipe de France. Donc, je savais que ça allait arriver après ma carrière. Et là, l'envie est plus forte, en fait, de fonder une famille que de reprendre le foot.
Ouais, parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Et on pose souvent la question, du coup, aux familles qui sont sportives. C'est finalement, tu fais un choix. Même si tu as l'envie de le faire, tu ne le fais pas forcément pour privilégier ta carrière.
C'est ça. C'est ça, après. Et on sait que sinon, c'est comme une grave blessure. Tu mets ta carrière, entre parenthèses, pendant un an à peu près. Le problème, c'est que moi, j'ai connu l'équipe de France très tard. Je pense que si je l'avais connu à 19, 20 ans, dans la suite logique des choses, j'aurais, je pense, fait une parenthèse bébé et j'aurais repris ma carrière. Là, le problème, c'est que j'ai connu l'équipe de France A à 25 ans. J'ai connu toutes les sélections jeunes, mais après, j'ai eu un trou où j'étais pas en équipe de France A. Et donc, j'ai voulu rattraper le temps en faisant toutes les compétitions, en fait. Ouais. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là tu
ça t'a poussé et là tu te dis enfin t'y penses même pas en fait
c'est ça beaucoup, tu dis t'as envie alors j'avais vraiment envie surtout qu'autour de moi tous mes amis commencent à avoir les enfants etc mais tu dis que voilà il faut t'as des choses à vivre t'as connu la sélection tard donc t'as envie de vivre des coupes du monde t'as envie de vivre des euros des jeux olympiques donc tu dis si je m'arrête un an il y a peu de chances que je puisse les faire donc on le fait pas quoi
et surtout dans quand les sportifs de haut niveau enfin les footballeurs en l'occurrence il y a un suivi qui se fait ou pas du tout c'est genre si tu décides de faire un enfant tu sors un peu du circuit, on va dire, et puis après, on t'aide pas forcément à revenir, ou il y a quand même
non,
un petit
parce que on est quand même sous contrat avec les clubs, donc c'est comme si on avait une grave blessure, c'est un suivi comme une grave blessure.
C'est quand même drôle de comparer un enfant avec une grave blessure.
Non, mais c'est dans le suivi, non, mais c'est parce que c'est dans le temps d'arrêt, en fait, c'est en ça, c'est pas du tout ça, mais déjà, l'avantage, c'est que pendant, on peut continuer à s'entretenir, même si on est enceinte. Et donc, du coup, il y a cet avantage-là où je vois des images, je les ai en tête, parce que Sinead Leroux, qui est enceinte, c'est une internationale américaine qui est enceinte pour son deuxième enfant. Elle est à 6 mois de grossesse, elle est avec son gros bidon sur les terrains de foot.
Elle est
sur les terrains en train de s'entraîner sans contact, mais elle est sur les terrains de foot, donc je vois encore des images. Donc, c'est possible, en fait. Je compare ça parce que c'est en
non,
temps
je
de...
Je les
on va se dire, oh là là, elle est bizarre. Non, c'est vraiment que voilà en temps d'arrêt, ça équivaut à une grave blessure. Mais non, les clubs, c'est si on est sous contrat, on est sous contrat. En fait, c'est comme si on était en congé maternité, comme n'importe quel travail.
Tu disais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'aspect équipe de France, parce que du coup, tu l'as intégré, l'équipe de France.
Ouais.
T'as eu 64 sélections en équipe de France.
Je vois que t'as bien révisé.
Hey, j'ai mes petites notes. Et t'as vécu une Coupe du Monde aussi en 2015.
Ouais.
Comment c'était ?
C'est extraordinaire. C'est pour une joueuse de foot, en club, il y a la Ligue des Champions. Et en sélection, il y a la Coupe du Monde. Quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'était magique. C'était vraiment magique. C'était... pourrais même pas comparer ça à autre chose, quoi. C'était dingue de jouer une Coupe du Monde, de représenter son pays. Un euro, c'est dingue, mais une Coupe du Monde, c'est extraordinaire.
C'est là, il y a 4 ans, c'était au Canada, du coup.
Ouais.
C'est vrai que c'est assez intéressant, vu qu'on est à quelques semaines de la Coupe du Monde, de comparer un peu aussi avec ce qui s'était passé il y a 4 ans. Toi qui l'as en plus vécu de l'intérieur, et toi maintenant qui le vis de l'extérieur, mais en tant que consultante. Donc au final, tu le vis aussi hyper intensément, j'imagine.
Oui, totalement, ouais.
C'est quoi ton point de vue, toi, justement, entre la façon dont c'était traité il y a... Enfin, quelles sont les différences, selon toi, entre la façon dont c'était traité il y a 4 ans et maintenant, sachant qu'il y a 4 ans, c'était sur W9, je crois.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ouais.
Et là, cette année, ça va être sur TF1, donc tu vois, le traitement n'est pas le même.
Non, le traitement est complètement différent, mais en même temps, c'est en France cette année. Et ça, c'est une grosse, grosse différence aussi, je pense. C'est que du coup, les médias français s'y intéressent encore plus, parce que c'est chez nous, c'est à la maison. Du coup, il y a TF1 et Canal, donc il y a deux diffuseurs en plus. Donc voilà, c'est dingue. Avant, c'était W9, il n'y avait que les matchs de l'équipe de France et quelques gros matchs. Là, à Canal, c'est tous les matchs. TF1, c'est les gros matchs. Donc, c'est dingue, quoi. Mais en même temps, c'est normal. C'est une compétition en France. La France fait partie des favoris, comme tout dans chaque grosse compétition, même si on n'arrive pas à faire ce qu'il faut pour le moment. Mais voilà, il y a eu la Coupe du Monde des garçons, où les garçons sont champions du monde l'année dernière. Donc, je pense que ça a amené encore plus d'engouement. Et il y a à nouveau, il y a depuis cette année, la D1 féminine qui est complètement diffusée tous les 10 week-ends sur Canal. Donc avant, on ne regardait pas, on ne voyait pas nos matchs à la télé, à part les gros, gros matchs de temps en temps qui allaient sur Eurosport ou France 4, mais c'est tout, quoi. Donc il y a un engouement sur le foot féminin général, plus cette Coupe du Monde en France, je pense que ça attire encore plus de médias, quoi.
Donc comment t'expliques qu'il y a un engouement justement sur le sport féminin, parce que... le sport féminin, il existe depuis des années.
Ouais.
Pourquoi maintenant les médias ont décidé de plus s'y intéresser, de diffuser les matchs?
Parce que je pense qu'ils se rendent compte petit à petit que ça fait des grosses audiences. On sait très bien que ça marche comme ça. Les médias aussi s'intéressent si ça fait de l'audience. On l'a vu avec le hand, la finale de hand qui a été exceptionnelle en termes d'audience. Le foot féminin, on voit les audiences sont très bonnes. Donc du coup, les médias commencent à s'intéresser en se disant que oui, ça fait du chiffre. Et c'est bien. Et ça permet aussi d'éduquer aussi les gens, parce que les gens n'avaient pas l'habitude de regarder du sport féminin à la télé. Du foot féminin, mais pas que, du sport féminin en général. Et donc du coup, c'est comme tout. Plus on met de sport féminin à la télé, plus les gens vont regarder et plus il va y avoir d'audience. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue.
C'est peut-être un peu d'a priori et de la comparaison avec le foot masculin aussi.
Oui, et en même temps, je pense que c'est le foot qui subit ça. Parce que quand le tennis, on compare jamais le tennis féminin au tennis masculin. C'est très rare quand même.
Ouais, c'est plus rare.
Et le foot féminin subit un peu ça parce que forcément, c'est moins rapide. Techniquement, tactiquement, on n'a rien à envier aux garçons, mais la physiologie qui m'en parle fait que c'est moins rapide. Et donc, du tout, à la télé, ça se voit encore plus parce que la télé ralentit.
Ouais.
Et donc, du coup, on subit un peu ça. Mais je pense que les gens commencent à arrêter cette comparaison-là et se dire que c'est du foot, certes, mais c'est une autre manière de faire du foot.
Ouais, mais tu vois, justement, toi, ça t'énerve pas en permanence, tu dis, on parle de la comparaison, que les médias se raccrochent en permanence à l'équipe masculine, tu vois, on va essayer de trouver dans l'équipe de France féminine, c'est la Mbappé féminin, tu vois, où c'est le... Et du coup, on essaye en permanence de raccrocher les wagons entre les deux équipes.
C'est vrai. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est les garçons à la base qui sont très très connus. Et en fait, ils ont envie de faire des comparatifs pour peut-être raconter aux gens, en fait, voir la comparaison. Et les gens qui connaissent pas sachent la comparaison, parce que les gens savent qui est Mbappé, mais ne savent pas parfois qui est Didier Toudiani, en fait. C'est plus dans ce sens-là, je pense qu'ils font la comparaison. Et donc, je pense qu'il ne faut pas le prendre négativement. C'est pour parler aux gens et parler à un plus grand nombre. Pour éduquer, entre guillemets, les gens. Et qu'après, ils savent qui est Khadija Toudiani sans comparaison à Kylian Mbappé. Donc, je n'ai pas envie de me dire c'est mauvais. Parce que ça quand même met en lumière les filles et ça permet aux gens de comprendre qui sont et à quel poste sont les joueuses, etc. Quoi.
Et tu disais que c'était, qu'il y avait aussi cet essor-là cette année parce que c'est en France. C'est une question un peu con que je vais te poser, mais si ça n'avait pas été en France cette année, tu penses qu'il y aurait eu autant d'intérêt autour de cette Coupe du Monde
féminine ? Pour les médias français, non. Ouais. Non, c'est normal. Quand une compétition est à la maison, on est encore plus regardant. Non, je pense qu'il n'y aurait pas eu autant d'engouement. Mais là, une Coupe du Monde en France, c'est exceptionnel. Donc les médias s'y intéressent encore plus.
Ça m'intéresse aussi, du coup, un peu d'en savoir plus sur comment ça se passe, une Coupe du Monde.
Ouais.
Toi qui l'as vécu, du coup, une fois en 2015. Comment c'est la vie en communauté avec 23 nanas en permanence ? Comment ça se passe ? Vous êtes tout le temps ensemble ? Il y a des moments de break quand même ?
Non, on n'est pas tout le temps ensemble. Après, chaque coach a sa manière de vivre. La Coupe du Monde que j'ai vécue avec Philippe Bergerot, déjà, on avait ces moments en famille. Ça, c'était top pour les familles qui venaient. Après les matchs, on allait manger avec nos familles. Entre chaque match, on avait au moins une après-midi qu'on pouvait passer avec notre famille. Donc déjà, c'est des moments où on est pas du tout avec le groupe. Et puis après, on peut être dans nos chambres ou avec le groupe, on fait ce qu'on veut. Des fois, il y a des moments où on se retrouvait toutes les soirs parce qu'on a envie de faire des jeux de société tout ensemble. Il y a les soins, donc on n'est pas tout le temps aussi obligé d'être tout le temps ensemble parce que il y a des horaires de soins, il y a des horaires de sieste, donc on n'est pas tout le temps ensemble non plus. Non, on a beaucoup de moments. Hein. Bien évidemment, on vit ensemble, donc on a beaucoup de moments ensemble, mais on a nos chambres, on peut avoir nos moments calmes quand on a envie d'avoir nos moments calmes. Puis il y a des personnalités, il y a des filles qui ont besoin d'être tout le temps avec du monde, il y a des filles qui ont besoin de se trouver un peu plus tranquille dans leur chambre aussi. Donc chacun fait sa vie, en fait.
Ok, parce qu'on peut se dire comme ça pendant un mois, les unes sur les autres, avec la pression en plus, parce que c'est pas comme si c'était n'importe quoi. Vous avez quand même la pression des matchs, d'avancer dans le championnat, d'aller le plus loin possible. Donc j'imagine que c'est quand même une situation qui est un peu stressante. Et du coup, on se demande comment ça se gère.
Non, pour le coup, ça gère plutôt bien. Après, on est quand même bien encadré. On a une salle de vie, entre guillemets, pour nous. On a les jeux de société, on a tout, Il y a les filles qui adorent jouer à la PlayStation, il y a tout en fait. Non, mais c'est vrai, hein. C'est stéréotype des footballeurs, mais les footballeurs, c'est pareil, il y en a plein qui adorent jouer à la PlayStation. Pas toutes, mais il y en a qui adorent ça aussi. Mais du coup, c'est ce qui fait qu'en fait, on vit normalement, on est obligé d'être pour les repas ensemble, pour les entraînements, et après, en dehors, on n'est pas tout le temps ensemble, quoi.
Et ça se passe comment ? Tu vois, ça c'est pareil, c'est une question un peu bête, mais vous êtes 23 filles ensemble pendant un mois. Comment ça se passe, même physiologiquement, tu vois ? Parce que j'imagine qu'à des moments, sur un mois, tu vas forcément avoir tes règles à un moment donné. Ouais. C'est un truc dont vous parlez entre vous ou c'est plutôt tabou ?
Non, il n'y a rien de tabou. Hein. Franchement, ça, on est des filles, donc parler de nos menstruations, ça ne pose pas de soucis. On vit tout ça. Non, on dit, des fois, on en rigole parce que quand on prend la pilule, on a forcément des menstruations réglées. Ouais. Mais il y a des filles qui ne la prennent pas et donc du coup, ça s'attire en fait. C'est souvent ce qui se dit. Une fille qui a ses règles, l'autre elle va avoir ses règles et on rigolait de ça.
Groupe.
Et ben on rigolait de ça parce que c'est vrai.
Ah ouais.
Pour le coup. Donc du coup, quand il y en a une, après il y en a trois ou quatre qui arrivaient, donc on rigolait de ça. Non, c'est pas quelque chose de tabou, quelque chose de normal, c'est la vie de tous les jours. Et entre femmes, quand on est avec des hommes, forcément on parle pas de ça, mais avec des femmes, il y a pas de souci, quoi.
Bon, pourquoi pas, d'ailleurs, faudrait pouvoir en parler avec les hommes aussi. Pourquoi
qu'ils comprennent pourquoi des fois on est un peu plus irritable, un peu plus énervé.
C'est clair. Bah, tu vois, c'est vrai que tu te demandes, même parce que t'en as certaines, ça peut avoir des vraies douleurs.
Ouais.
Donc même là, dans cette circonstance-là de Coupe du Monde, où si un jour, t'as tes règles, c'est ton premier jour de règles, t'es trop mal. Comment ça se passe ? Parce que tu peux être du coup pas à 100% de tes capacités.
Le médical le sait. C'est quelque chose quand même qui est
encadré là-dessus.
Oui, on est très bien encadré là-dessus. Tout est fait pour. On sait très bien qu'il y a des filles qui sont plus douloureuses à cette période-là que d'autres. Donc tout est fait en œuvre. Enfin, tout est mis en œuvre par le médical, par le staff. Le staff est au courant. Donc c'est pas un sujet tabou parce que ça fait partie de nous en fait.
Ouais. Ça, du coup, c'est quelque chose où finalement on n'en parle pas tant que ça.
Non.
Et surtout dans le sport de niveau et dans les grandes compétitions comme ça.
C'est parfois assez compliqué à gérer. Quand on est sous contraception, on peut adapter peut-être la chose parfois, donc ça va. Mais quand il y a des filles qui ne prennent pas de contraception, ça peut
c'est
être
un peu plus compliqué.
Ouais, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, tout le monde s'adapte. En fait, on sait que la personne peut être un peu plus fatiguée à ce moment-là. Donc parfois, il y a des choses ou des entraînements qui peuvent être adaptés en fait.
Ouais. Et sur le côté plus fashion de la chose. Cette année, c'est la première fois que les filles ont un maillot dédié aussi.
Ouais.
Vous, là, il y a 4 ans, c'était quoi ? C'était un dérivé du maillot des mecs ?
Oui, c'était comme ça tout le temps, en fait. Ça a toujours été comme ça. C'était un maillot féminin, bien évidemment. Coupe féminine, mais dérivé de... Ouais, c'est la même chose que les garçons,
c'était
mais...
C'était quand même une coupe féminine,
ah, oui,
c'était pas
sûr.
Les maillots des mecs
non,
qui
non,
étaient...
Non, non, pas du tout. On a toujours eu... moi, j'ai toujours connu une coupe féminine. Après, il y a beaucoup d'années, on n'avait pas de coupe féminine. On jouait avec des maillots qui nous arrivaient aux genoux. mais bon, ça, c'était à mes débuts. Mais les sponsors maintenant font qu'on a des gammes féminines. Donc, c'était la même chose que les garçons, mais en gamme féminine. Là, elles ont leur propre maillot avec les cuissons roses et tout. Je trouve ça top. C'est bien.
Tu comprends justement aussi l'intérêt qu'ont les équipementiers de mettre le paquet maintenant aussi sur les femmes, chose qu'ils ne faisaient pas forcément avant et qui maintenant, tu as un peu l'impression que c'est une priorité pour les équipementiers
parce
de mettre à fond en avant le sport féminin.
Parce qu'ils se rendent compte que c'est vendeur aussi. De toute façon, c'est comme tout. Les femmes qui suivent le foot masculin vont acheter des maillots, mais vont envie d'avoir une gamme féminine. Forcément, envie d'avoir un maillot qui leur va au corps, etc. Donc, ils se rendent compte que les femmes aussi achètent des maillots de foot, des shorts de foot. Il y a de plus en plus de femmes en plus qui pratiquent ce sport-là au quotidien. Donc, c'est tout un intérêt pour eux de vraiment mettre en lumière les plus grosses compétitions parce que c'est là où ils vont encore plus vendre ce qu'ils ont envie de vendre.
Et tu ne trouves pas que c'est pas un peu passé de rien à tout, dans le sens où là, tu vois, par exemple, parce que moi, je trouve ça très cool, mais ils ont événementialisé, compliqué, le lancement des maillots pour toutes les équipes qui étaient Nike. Ils ont fait un gros événement.
Ouais,
t'avais
ouais.
les joueuses de chaque équipe qui étaient présentes à Paris. C'est vraiment devenu un événement, le lancement du maillot, boum, maintenant, ça devient un truc événementiel. On communique autour, tu vois, les filles sont là.
Moi, je trouve ça que positif, en fait. Je trouve ça tellement positif, c'est tellement aussi une reconnaissance pour les joueuses parce que on faisait énormément de choses pour le maillot masculin, etc. Même si sur les dernières années, il y avait une femme et un homme qui représentaient le maillot quand les nouvelles gammes sortaient, mais là, qu'elles aient leur propre maillot, leur propre événement, je trouve ça extraordinaire et je trouve ça magnifique en fait. Et au contraire, c'est que positif. C'est positif pour le sport féminin, pour le football féminin. Et j'espère que ça va continuer comme ça surtout.
Tu les trouves beaux les maillots ?
Ouais, honnêtement. Alors, je sais qu'il y en a qui vont pas aimer celui à pois, mais là, je le trouve magnifique.
Le rose et blanc avec.
Ah ouais, avec les pois, les pois là, ils sont magnifiques.
Ouais.
Nike a bien travaillé pour le coup.
Je suis d'accord, effectivement, c'est sympa. Il y a un autre truc aussi qui est assez marquant sur cette Coupe du Monde, et ils en ont pas mal parlé, c'est que l'entraîneur est une femme.
Ouais.
Chose qui est extrêmement rare, parce que je crois que c'est la deuxième fois dans l'histoire de l'équipe de France.
Il y a eu Elisabeth Loisel.
Exactement, et du coup, c'est la première fois, la deuxième fois, pardon, qu'il y a une femme qui entraîne l'équipe de France. Tu penses que ça ajoute aussi un peu à l'image de cette nouvelle équipe, ou qu'au final c'est un peu un truc
Non, je sais pas si ça ajoute à l'image. Je pense qu'il ajoute à l'image, c'est qu'aussi la carrière de Corinne Diacre en elle-même, ancienne internationale avec énormément de sélections, capitaine de l'équipe de France, première entraîneur à femme à entraîner une équipe masculine au niveau professionnel en France.
Clairement.
Donc je pense qu'en fait c'est plus la personne de Corinne Diacre et la personnalité et la carrière de Corinne Diacre qui fait que ça ajoute et en plus que vraiment le fait que ça soit une femme. Avant, on a quand même eu Olivier Chouafny en salle internationale et ancien joueur professionnel. Philippe Bergerot, qui est quand même champion du monde 98, qui est entraîneur, qui a une carrière de joueur, une carrière d'entraîneur PSG, etc. Donc, eux aussi amenaient quelque chose à cette équipe de France féminine par leur carrière. Et je pense que Corinne Diacre amène quelque chose aussi par sa carrière en elle-même, en fait. Que ce soit de joueuse ou d'entraîneur. Donc, je pense que c'est plus la personnalité de l'entraîneur, le passé de l'entraîneur qui fait que ça amène une lumière en plus, pas le sexe, je pense pas.
Mais est-ce que ça, au final, les gens s'en sont quand même pas mal emparés en disant bah, c'est une femme qui entraîne l'équipe de France féminine. Est-ce qu'il y a une façon différente d'entraîner des filles quand on est une femme ? Tu vois, ce truc-là qui est quand même beaucoup revenu.
Ouais. Non, quand on est une femme. C'est d'entraîner une équipe féminine est différent que d'entraîner une équipe masculine par la psychologie, par plein de choses. On est différente des hommes. Déjà, dans un groupe, parfois, il ne faut pas manager la même personne. Un garçon, on ne la manage pas de la même manière d'un autre garçon, d'un autre joueur. Donc, une femme, on ne la manage pas pareil d'une autre femme et d'un garçon en général. Donc, c'est une équipe féminine qu'on ne manage pas de la même manière, mais que ce soit un garçon ou une fille. Il doit s'adapter, l'entraîneur garçon ou femme s'adapte à une équipe féminine. C'est pas le fait que ce soit une femme qui change la chose, en fait. C'est vraiment l'entraîneur en lui-même, l'entité au-delà du sexe de l'entraîneur, qui doit manager une équipe féminine, ça se manage différemment qu'une équipe masculine.
Comment tu réagis, tu vois, aussi à ça? Parce que là, par exemple, sur TF1, en l'occurrence, les deux commentateurs, enfin, les deux personnes qui vont commenter, c'est deux hommes. Il n'y a pas de femmes, sauf en bord-terrain.
Oui, en bord-terrain, ouais.
Ça te dérange, toi, ça, ou tu trouves ça normal?
Ça ne me dérange pas dans le sens où... Et en même temps, c'est quand même Grégoire Marnotan et Bixente Lizarazu.
Qui étaient du coup ceux qui déjà
du qui tout, commenté, ceux qui ont commenté la Coupe du Monde masculine. Ouais. Et je pense que TF1 a voulu, comme Canal peut le faire, nous avec la D1 féminine, où c'est Stéphane Guy qui a commenté le gros choc de D1 féminine. Pour moi, ça montre aussi qu'il y a l'intérêt et que voilà, même les plus grands commentateurs commentent aussi le foot féminin.
Ouais.
Et je sais de source sûre qu'il y aura quelqu'un en bord terrain féminin et de très, très compétent. Et donc du coup, et qui interviendra aussi pendant le match en fait, ouais, qui aussi donnera son analyse.
C'est ce que nous a dit Anne-Sophie Christophe du coup dans le
présent. Donc du coup, je me dis qu'il y aura quand même la touche féminine, ouais. Et en même temps, ils valorisent quand même cette équipe féminine en mettant quand même le duo de commentateurs qui a commenté quand même les plus gros matchs de la Coupe du Monde et l'équipe de France masculine. Donc pour moi, il y a les deux. Et au contraire, ça valorise aussi cette équipe de France féminine.
Est-ce que finalement, ce sera pas devenu une vraie victoire quand ce sera un homme et une femme qui commenteront et qu'on se dira
tous les matchs,
tous c'est les normal. Matchs, voilà, tu vois, tous les matchs,
oui,
et ça
bien sûr,
normal.
Ça va venir petit à petit. Moi, j'ai eu la chance de faire des matchs avec avec Canal, des matchs de Ligue 1 masculine où je commentais et c'est top. J'ai eu la chance de faire des bords terrain, donc ça arrive. Mais il faut laisser le temps au temps, c'est comme tout. On se plaint qu'il n'y ait pas beaucoup d'entraîneurs féminins en plus haut niveau, mais il faut leur laisser aussi le temps de passer les diplômes. Comme on part de loin dans le foot, on part de loin dans tout, en fait. Mmh. Et donc, du coup, petit à petit, on va en voir de plus en plus. Il y a de plus en plus de journalistes féminins qui vont s'intéresser au foot masculin, au foot féminin, à tout. Ça va arriver, mais ça prend du temps, c'est comme tout.
Et ton point de vue, toi qui as du coup les deux casquettes, footballeuse et maintenant journaliste, c'est quoi finalement la limite le plus difficile?
C'est d'être journaliste pour moi parce que le foot, j'ai fait ça toute ma vie.
Ouais.
Et donc, du coup, c'était ma passion. J'ai fait ça toute ma vie. J'ai joué au foot toute ma vie. J'ai appris les bases des plus petites que journaliste. J'apprends sur le tard. Mmh. J'ai pas fait d'école de journalisme ni rien. Donc, j'apprends sur le tard. Donc, je vais dire journaliste parce que je suis toujours en train d'apprendre des nouvelles choses. En plus, Canal me fait faire plein de choses différentes. Ouais. Donc,
il y a des choses que tu préfères là, du coup, dans... tu disais, t'as commenté.
Je commente, je fais du bord-terrain, des émissions. Je sais pas, c'est compliqué. J'adore être bord-terrain.
Ouais.
J'adore être bord-terrain parce qu'on est proche de la pelouse. On pose des questions au coach, aux joueurs.
T'es plus dans l'ambiance aussi, du coup.
T'es dans l'ambiance, t'es vraiment. Et puis, tu poses des questions aux joueurs, t'es avec les joueurs, avec les entraîneurs. Ça, j'adore. Donc, j'ai découvert ça il y a pas longtemps et j'aime énormément. Après, commenter, j'aime ça aussi. Et les émissions, c'est top aussi de pouvoir débattre sur le foot, sur un match, les analyses tactique et tout, j'adore ça, donc j'aime un peu tout et je ferai une priorité sur et le bord terrain et les émissions analyse foot vraiment en émission.
Quand t'étais en équipe de France, t'avais pu porter le numéro 8, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Je crois que là, sur les derniers matchs, c'était Delphine Cascarino qui portait le numéro 8.
Franchement, c'est peu importe qui le porte, mais Delphine, elle est top.
Ça, j'allais dire, c'est un bon...
pour le coup, c'est magnifique. C'est un bon porte-maillot numéro 8.
T'as des petites chouchoutes dans l'équipe ou... C'est compliqué, c'est comme question.
Non, mais forcément, il y a des filles de ma génération que je connais comme des copines ou des amies. Après, dans les petites jeunes, forcément, il y a des petites que j'ai connues moi au PSG qui étaient toutes jeunes. Et donc, forcément, c'est particulier. Marie-Antoinette Katoto, elle avait 15 ans quand elle s'est entraînée avec nous. Ouais. Donc, c'est les petites du PSG, je les appelle mes petits bébés. Donc, c'est toujours particulier. Et après, il y a aussi Eve Périsset qui était, entre guillemets, la fille qui jouait derrière moi dernièrement, qui était ma remplaçante, même si j'aime pas dire ça, c'est pas vraiment ça. Mais... Et donc, du coup, forcément, j'ai une affection particulière aussi pour elle parce qu'elle venait avec moi après les matchs où je revisionnais mes matchs avec l'entraîneur adjointe, elle venait avec moi parce que pour moi, c'était celle qui allait prendre la suite. Donc, aussi particulièrement Eve Périsset, mais sinon. C'est ma génération en fait, donc je les connais toutes, donc j'ai joué avec toutes, donc c'est différent.
Et quel est ton point de vue sur cette équipe de France, sur cette nouvelle génération mixée du coup avec des plus anciennes?
C'est bien.
Un bon collectif.
Ce mix était bon parce que il y a les filles qui ont l'expérience. Je pense qu'il y a quand même besoin d'expérience dans une équipe qui ont connu toutes ces compétitions-là, le haut niveau, qui ont déjà fait des mondiaux, des Jeux Olympiques, des Euros, qui connaissent tout ça. Et puis il y a la touche fraîcheur, la jeunesse. Et je pense que Corinne a fait un bon mix de tout ça parce qu'il faut aussi de l'insouciance dans une équipe. Mmh. Faut, on l'a vu, hein, en 2006, il y avait Franck Ribéry. En 98, il y avait Thierry Henry, David Trezeguet. Ouais. Là, il y a eu Pavard et Hernandez, des jeunes qui arrivaient comme ça. Et je pense qu'il en faut dans chaque équipe. Et on a ça en équipe de France. Et ce mix-là est très intéressant. Ouais.
Et ton prono, du coup, pour le mondial?
C'est compliqué. Bien sûr, je vais être chauvine. J'ai envie que la France aille plus forcément loin et gagne cette Coupe du Monde. Maintenant, ce qui est très compliqué, c'est que le foot féminin mondial se resserre complètement.
Ouais.
Le niveau se resserre. Et donc, du coup, il y a tellement d'équipes qui prétendent au titre. Avant, on sortait que les États-Unis et l'Allemagne. Mmh. Maintenant, l'Angleterre est prétendant au titre. Les Pays-Bas, qui sont champions d'Europe en titre, et prétendant au titre. Le Japon, il y a toujours le Brésil, les équipes nordiques. Du coup, pour trouver, franchement, celui qui arrivera à trouver la finale...
À faire le bon prono.
Franchement, bon courage.
Tu trouves que les écarts entre les équipes féminines sont plus proches,
ouais,
qu'il peut y avoir, par exemple, sur les équipes masculines?
Après, il y aura peut-être des écarts, parce que je pense qu'il y a des équipes qui ont encore un peu de retard. Je pense, hormis le Brésil, à l'Amérique du Sud quand même, et un peu l'Afrique, qui a quand même un peu de retard encore en termes de niveau. Mais sinon, ouais, je pense que pour avoir des 5 ou 6-0, il n'y en aura peut-être pas beaucoup. Ouais. Et j'espère aussi parce que ça permet de resserrer le niveau et d'avoir des matchs encore plus intéressants à la télé. Mais je pense qu'il n'y aura pas quand même énormément de gros scores sur toute la compétition.
Mmh. Ça, comment t'expliques d'ailleurs? Je trouve ça intéressant parce que les grosses nations du foot chez les mecs, c'est pas forcément les mêmes grosses nations du foot chez les filles. Enfin, les États-Unis qui est la plus grosse nation du foot féminin, à l'équipe des États-Unis chez les garçons, c'est pas vraiment ça, quoi.
Bah parce que le paradoxal, je pense, c'est que à la base, le soccer là-bas, donc le foot, c'est un sport féminin. Toutes les petites filles, elles jouent au foot là-bas, ouais. C'est normal, partout. Et que le soccer masculin est arrivé qu'après, parce que là-bas, c'est la NBA, le football américain, le baseball, qui est le sport masculin numéro un, en fait. Et donc, le foot est arrivé vraiment après. Et donc, en fait, c'est le foot féminin qui a vraiment eu une grosse évolution, parce que pour eux, là-bas, c'était un sport plutôt féminin que masculin, en fait. Mmh. C'est pour ça que, en termes de nation, on voit les États-Unis est plutôt féminin avant le football masculin. Mais après, les autres nations, quand on voit l'Allemagne au plus haut niveau, chez les garçons, ouais, c'est pareil. Le Brésil, c'est pareil. C'est vrai que le Japon, dans les pays asiatiques, le football féminin est très très fort.
Ouais.
Plus que le. Mais
ça,
on sent
surprenant.
Que. Ouais. Ça, c'est assez surprenant. Je saurais pas l'expliquer d'ailleurs. mais on voit quand même les équipes asiatiques commencer à arriver sur le devant de la scène en football masculin. Mais c'est vrai que pour le coup, en football féminin, c'est déjà un haut niveau. Ouais.
Et d'ailleurs, c'est quand même fou. Tu dis, c'est ce que tu dis. Tu dis aux États-Unis, du coup, le football a été porté par les femmes.
Mm-hmm.
Mais là, il n'y a pas longtemps, il y a eu un peu un scandale là-bas parce qu'elles se sont toutes mises en grève pour protester sur les différences de salaire.
Oui.
Donc c'est que finalement, c'est quand même pas non plus totalement égalitaire là-bas, quoi.
Ouais, on se rend compte que c'est partout, en fait. Là où même au début, les États-Unis faisaient rêver parce que en termes de sponsoring individuel des joueuses, c'est dingue. Hein, là-bas, Alex Morgan, Coca-Cola, enfin toutes les joueuses, elles ont des sponsors personnels, des grosses choses. Il y a des joueuses qui ont fait des danses avec les stars. Enfin, là-bas, le foot féminin, c'est des vraies stars. C'est dingue. Mais on se rend compte qu'en fait, quand le football masculin rattrape ça, on se rend compte qu'il y a encore, des grosses différences, quoi. C'est dingue. Hein.
Il y a encore un petit peu de chemin à faire.
C'est ça.
Moi, je vais te poser des questions un peu plus généralistes aussi, sur toi.
Ouais.
Je vais te demander de me citer ou de me raconter un moment de sport qui a été important pour toi. Si tu devais en choisir un dans ta carrière ou en tant que spectatrice, s'il y a vraiment un moment donné où tu t'es dit « Ok, waouh, là, je vais m'en souvenir toute ma vie de ce truc-là », ce serait quoi?
Ah, la Coupe du Monde 98, hein, très clairement. C'est le premier gros événement quand j'étais jeune. J'avais 10 ans, 11 ans. Donc, c'est le premier gros événement que tu te passionnes pour, etc. L'engouement, c'est vraiment cette Coupe du Monde-là. Pour ma génération, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ça parce que c'est les moments vécus en famille. J'ai eu la chance de faire comme je le disais, un match de lever les rideaux. Enfin, c'est la compétition qui m'a marqué le plus dans mon enfance. C'est la première grosse compétition, quoi. Vraiment.
Et dernière question qu'on pose à tout le monde. Quelle est ta définition d'une championne?
Pour moi, une championne, c'est une femme qui se dépasse soi-même, peu importe le niveau. C'est une femme qui se retrouve en adéquation avec elle-même, ce qui n'est pas toujours facile, qui arrive à mener de front tout ce qu'elle a envie de faire. Les femmes, en général, sont des championnes pour moi dans la vie du quotidien parce qu'elles mènent de front tout. leur carrière professionnelle, ce qu'il faut faire à la maison, plein de choses, les préjugés pour plein de raisons différentes. Donc, pour moi, une championne est une femme. Très clairement, les femmes sont des championnes en général pour la vie du quotidien. Donc voilà, pour moi, une championne, la définition, c'est une femme.
Bravo, c'est super, c'est beau. On va rester sur ces... On va rester sur ces quelques mots. Et puis, et te souhaiter beaucoup de bonheur sur ta carrière future.
Merci.
Et dans ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Et puis, on sera... Enfin, moi, je serai là derrière l'écran pour soutenir l'équipe de France à fond.
Moi aussi.
Dans quelques semaines. Et puis, leur souhaiter tout le bonheur. Merci beaucoup, Justine.
Merci. Merci à toi.
Si ce parcours de femme vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me faire part de vos commentaires ou suggestions d'invités sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et SoundCloud. Et rejoignez-nous sur Instagram pour découvrir quotidiennement des infos sur le sport au féminin. À très vite!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.